Madame, Monsieur, bonjour. Notre chronique « Lue pour vous » à la documentation française est consacrée ce mois-ci à l'ouvrage intitulé « L'euro est-il un échec ?» publié dans la collection « Réflex Europe ». Dans cette deuxième édition, son auteur Michel Dévoluy, professeur d'économie à l'Université de Strasbourg, revient aux origines de l'euro et s'interroge sur les gains attendus de la monnaie unique. Il dresse un bilan contrasté de la situation de l'euro et propose des perspectives. Pour nous éclairer sur ce sujet ô combien complexe et délicat de l'euro et de son avenir, alors que nous assistons à une aggravation de la crise de la zone euro qui suscite beaucoup d'interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio à Canal Académie M. Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été élu le 3 mai 1993 dans la section générale au fauteuil laissé vacant par le décès du cardinal Henri Seunier de Lubac. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un expert éminent dans les domaines monétaires et financiers. Inspecteur des finances, vous avez été successivement directeur du Trésor, directeur général du FMI, avant d'accéder au poste de gouverneur de la Banque de France de 1987 à 1993, puis de président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, de 1993 à 1998. Nos auditeurs vous connaissent bien, Monsieur Delarosière, puisqu'ils écoutent, et je leur recommande d'écouter et de réécouter, les émissions Finance, la chronique de Jacques Delarosière, qui sont tout à fait éclairantes sur l'ensemble de ces sujets économiques et financiers. Jacques Delarosière, je souhaite vous poser quelques questions. Tout d'abord, 10 ans après l'introduction de l'euro, quel regard portez-vous sur la création de la monnaie unique et sur le processus de sa mise en œuvre, ainsi que sur les bénéfices que l'euro nous a apportés?
Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être auprès de vous pour évoquer ce sujet. Je crois qu'il y a 2 aspects. L'euro a été un succès. D'abord, un succès technique. La monnaie a été introduite de manière tout à fait remarquable et elle est devenue une des grandes monnaies internationales. Après le dollar, c'est la monnaie qui est la plus détenue par les banques centrales dans leurs réserves. Elle n'a pas détrôné le dollar. Elle reste inférieure au dollar en ce qui concerne la masse des détentions, mais elle est certainement devenue la deuxième plus grande devise internationale. C'est aussi un succès sur le plan de la lutte contre l'inflation. Vous savez que la Banque Centrale Européenne a été créée pour limiter l'inflation à moins de 2%, et au cours de la période de 10 années que vous évoquez, l'inflation est restée à l'intérieur de ses limites. C'est aussi un succès au sens que les Européens de la zone euro ont pu régler leurs transactions dans une monnaie unique avec une réduction de coûts, surtout en ce qui concerne les transactions transfrontalières. Mais en dehors de ces aspects techniques et internationaux qui sont favorables, il y a eu un phénomène malheureux qui a caractérisé ces 10 années que nous évoquons. Et ce phénomène malheureux, c'est le suivant. Pendant cette période, les marchés n'ont pas suffisamment distingué entre les pays qui laissaient voir de grandes vulnérabilités dans leur système économique et ceux qui allaient au contraire d'un meilleur pas. Et cette absence de différenciation, qui s'est traduite par une égalité des ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt, ces écarts de taux d'intérêt étaient quasiment nul entre la Grèce d'un côté et l'Allemagne de l'autre jusqu'en 2009, c'est-à-dire de 2000 à 2009, les marchés ont complètement oblitéré l'existence et l'aggravation d'un certain nombre de déséquilibres qui se passaient dans une partie de l'Europe, en particulier l'Europe du Sud, mais aussi l'Irlande. Et donc, on a eu pendant 10 ans sur les marchés internationaux le sentiment que l'eurozone allait du même pas, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et ce n'est que lorsque la crise de 2007-2008 a créé ses ravages, notamment en Europe, que la perception sur les marchés s'est affinée et que c'est en 2009 que les marchés ont commencé à regarder le comportement économique et financier de chacun des pays de la zone euro. Et vous le savez, c'est à ce moment-là que les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt, ont considérablement divergé et que des pays comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Espagne, l'Irlande, ont eu à subir des taux d'intérêt très élevés pour assurer leur financement, ce qui a évidemment considérablement dégradé leur situation économique. Donc, si vous voulez, ma réponse à votre première question, c'est oui, ça a bien fonctionné du point de vue technique, mais du point de vue, je dirais, de la réalité des fondamentaux, il y a eu des écarts qui ont été malheureusement croissants et qui ont été malheureusement le produit de l'euro, dans la mesure où l'euro a donné une sorte d'apaisement, de confiance aux différentes monnaies, aux différents États qui le composaient. Voilà pour la première question que vous avez bien voulu me poser.
Je me permets de la compléter peut-être en disant, est-ce qu'il n'y a pas eu au fond peut-être initialement un défaut d'anticipation des difficultés qui pourraient survenir? Enfin, c'est...
Bien sûr qu'il y a eu ce défaut. Il y a eu un défaut plus fondamental. C'est que, alors que l'on faisait une union monétaire avec une banque centrale fédérale qui avait tous les pouvoirs monétaires dans sa main, on n'avait pas fait en face de cette union monétaire, une union économique où on se serait préoccupé justement de ses fondamentaux et de la détérioration des comptes des différents pays qui composaient l'union monétaire. Et c'est maintenant seulement, mais là je broche un peu sur vos questions à venir, que l'on commence à se rendre compte de la nécessité de créer une véritable union économique et monétaire. C'est une union monétaire qu'on a créée. Mais malgré le sigle de l'union économique et monétaire, on n'a pas créé une union économique.
Alors aujourd'hui, alors que la crise économique et financière frappe la zone euro depuis environ 2009-2010, cette crise conduit à s'interroger sur l'avenir de la monnaie unique. Et comment aujourd'hui voyez-vous son évolution à court terme déjà et peut-être à moyen terme ?
Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est le sujet d'actualité. La zone euro est en très grave crise, il ne faut absolument pas s'illusionner sur ce point. Et cette crise, elle recouvre, je dirais, au moins trois secteurs, trois chapitres essentiels, qui sont ceux qui sont derrière ce que j'appelle l'évolution défavorable des fondamentaux depuis une dizaine d'années, malheureusement masquée par une sorte d'harmonie au niveau du comportement de la monnaie. Ces trois chapitres sont d'abord celui de la détérioration de la compétitivité d'un certain nombre de pays qui font partie de la zone euro. Pas seulement les pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Irlande ou l'Espagne, mais aussi la France. Tous ces pays ont connu une détérioration progressive, graduelle, de leur compétitivité par rapport aux pays les plus performants, notamment à l'exportation de la zone, c'est-à-dire essentiellement de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche. Et il faut comprendre que cette détérioration de la compétitivité, qui touche à la fois les salaires, la durée du travail, le financement de la sécurité sociale, le coût fiscal et parafiscal qui pèse sur le travail dans un pays comme la France, tout ça, ce sont des éléments absolument déterminants dans la concurrence mondiale. Quand on vend, il faut vendre aussi bien que le voisin, au point de vue des prix et de la qualité. Et si on a, comme c'est le cas en France, plus de 5% de surcharge dans les différents domaines que je viens d'évoquer, eh bien, c'est la différence entre une vente et une non-vente. Alors ça, c'est le premier point. Et il faut bien comprendre que si on veut remettre l'euro sur des bases plus saines, il va falloir traiter ces problèmes de compétitivité. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre budgétaire. Pendant cette dizaine d'années dont nous parlons, les déficits budgétaires, et d'ailleurs c'était le cas bien avant, mais enfin ça s'est encore dégradé depuis, les déficits budgétaires d'un certain nombre d'États ont considérablement augmenté. Et ils ont donc créé un alourdissement de la dette publique de ces États. Parce que quand vous avez un déficit budgétaire, vous êtes obligé d'emprunter pour le financer, et plus vous empruntez, plus vous chargez votre endettement public. Alors, vous le savez, c'est dans tous les journaux, un certain nombre de pays ont exagérément profité de cette sorte de facilité d'emprunt dont je parlais au début de ma réponse à vos questions, puisqu'ils empruntaient à très bas taux d'intérêt. Ils ont donc profité de cela pour entrer de plus en plus dans le déficit budgétaire, puisque emprunter pour financer le déficit n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est un problème majeur. Et donc, il faut rétablir un ordre budgétaire, une discipline des comptes, comme tout le monde le fait, comme vous le faites, je le fais, pour ne pas indéfiniment dépenser plus que ce que nous gagnons. Alors ça, c'est le chapitre du budget. Et puis, il y a le chapitre de la balance des paiements qui est lié aux deux précédents. Pendant cette période, les balances commerciales, c'est-à-dire la différence entre ce que nous exportons et ce que nous importons, se sont détériorées dans un certain nombre de pays, pas en Allemagne, pas aux Pays-Bas, pas en Autriche, mais oui, en France, en Italie, en Grèce, etc. Ce qui veut dire que, effectivement, notre compétitivité est mise à mal et que nous avons du mal à exporter. Alors, évidemment, comme nous avons voulu maintenir notre niveau de vie, nous avons, en quelque sorte, faciliter la consommation par une politique monétaire relativement aisée qui régnait dans l'Union et par des politiques budgétaires laxistes. Mais ceci s'est traduit beaucoup par des importations et pas de la production nationale. Et donc, il ne faut pas s'étonner quand on voit que les balances des paiements se dégradent, mais que l'emploi se dégrade. Parce que si l'emploi se dégrade, c'est qu'on n'arrive pas à mettre de l'emploi sur de la production exportable. Alors voilà les trois grands chapitres. Et quand vous me demandez quel est l'avenir de la monnaie unique, je vous répondrai d'une manière extrêmement simple que si nous ne parvenons pas à réduire les écarts et les insuffisances qui caractérisent un certain nombre de pays au titre de ces trois chapitres, alors je suis assez pessimiste sur l'avenir de l'union monétaire. Je pense qu'il est encore possible de résoudre ces questions. On a d'ailleurs fait beaucoup de progrès depuis quelque temps pour ce faire. Vous savez que à l'automne de 2011, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord sur tout un ensemble législatif qui doit soumettre à une coordination très poussée les budgets nationaux. Chaque budget national de chaque État doit se soumettre communautairement à une trajectoire de réduction des déficits qui est agréée par tous et qui, si elle n'est pas mise en œuvre, suscite à ce moment-là un mécanisme de sanction. Enfin, tout ça, c'est un ensemble de dispositions qui ont été mises en œuvre. Ils ont été complétés en février-mars dernier par ce qu'on appelle un accord de caractère fiscal et budgétaire qui prévoit que, à l'avenir, les budgets de fonctionnement devront, en tout cas sur le plan structurel, tendre vers l'équilibre, c'est ce qu'on a appelé la règle d'or, et il y a encore un certain nombre de mesures plus récentes qui ont été prises. Donc, je pense, pour répondre à votre question, qu'il faut s'attaquer à ces sujets et qu'on ne peut pas conserver une union monétaire où chaque membre se différencie trop des autres, parce qu'à ce moment-là, on entre dans des problèmes d'incompatibilité.
Alors, je souhaite aussi vous demander si, à votre avis, les décisions qui ont été prises par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, donc tout récemment, remettent l'euro sur une bonne trajectoire et si elles augurent d'un renforcement et d'une pérennisation de la monnaie unique.
Oui, je pense que ce sont de bonnes mesures. Elles tendent à mettre en place un certain nombre de dispositifs dans l'immédiat qui sont nécessaires pour préserver la vie même de l'union monétaire. Et avant de vous les commenter, je voudrais simplement vous rappeler, ainsi qu'aux auditeurs, que l'union monétaire est aujourd'hui très paradoxalement une non-union monétaire. Vous avez en réalité l'Europe du Nord, y compris la France, dont les taux d'intérêt sont bas, et une Europe du Sud, où les taux d'intérêt sont très élevés. Quand vous avez des taux d'intérêt très élevés, c'est vrai pour les États, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Les entreprises empruntent toujours un peu plus cher que leur État national. Et quand des pays comme la Grèce, je n'en parle même pas, mais l'Italie ou l'Espagne, sont obligés d'emprunter à 5 ou 6 % par an pour financer leurs obligations à 10 ans et que donc le secteur privé, les entreprises, doivent emprunter à significativement plus que cela, avec des économies qui sont pratiquement en déclin et en récession, ce sont des charges qui sont insoutenables. Et donc il est assez paradoxal de voir que la partie nord de l'Union qui se porte le mieux est une partie qui a une politique monétaire de bas taux d'intérêt, alors que la partie du sud, qui se porte moins bien, doit supporter des taux d'intérêt très élevés. Et donc, il faut comprendre que cette situation des souverains du sud, qui ont à payer très cher leur endettement, est une situation qui se répand par contagion, non seulement aux banques de leur pays, mais aussi aux entreprises, mais aussi aux banques. Et il y a une sorte de cycle vicieux dans lequel plus un pays éprouve des difficultés à emprunter, parce qu'il a des problèmes ou il est vu comme ayant beaucoup de problèmes, plus les banques de ce pays, qui sont évidemment détentrices de beaucoup des titres souverains de ces pays-là, souffrent de l'évaluation qu'ont les marchés de la qualité de ces titres. Et si l'État veut aider à renflouer les banques, il se surcharge en endettement et en finances publiques. Et s'il ne le fait pas, les banques sont fragilisées. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'importance des décisions qui ont été prises le 29 juin dernier. Ces décisions disent que, en ce qui concerne les banques, et en particulier les banques espagnoles, qui, comme vous le savez, sont une partie assez aiguë du problème, en tout cas une partie des banques espagnoles, pas toutes, mais celles qui ont prêté en particulier à la construction et au logement, ces banques-là vont pouvoir désormais emprunter directement auprès du mécanisme de financement de solidarité européen, qui deviendra plus tard le mécanisme européen de solidarité. Alors ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, ces mécanismes devaient nécessairement passer par l'État auprès desquels les banques éprouvaient des difficultés. Désormais, il ne sera plus nécessaire de surcharger encore plus la dette de l'État pour que l'État reprête ses fonds aux banques, mais les banques pourront, d'après le communiqué du 29 juin, se financer directement auprès des mécanismes européens. Ce qui, d'une certaine manière, brise un peu le lien vicieux entre les banques et les souverains. Et la deuxième chose qui est aussi indiquée dans le communiqué, qui a l'air technique mais qui est importante, c'est que, mais c'est un peu plus vague que le premier point, c'est que les États qui ont des difficultés à se financer à des conditions raisonnables pourront également être emprunteuses en direct auprès de ces mécanismes européens. Ça, ce n'est pas une entière nouveauté, parce que ça existait déjà, mais le fait que ça soit réaffirmé est important. Et peut-être ce qui est encore plus important, c'est que le communiqué du 29 juin ouvre une perspective fédérale nouvelle. C'est celle d'une supervision bancaire unifiée au niveau de l'Europe. En effet, si l'on dit désormais que les banques pourront obtenir directement des fonds de ces mécanismes qui sont des mécanismes de mutualisation où l'Allemagne, la France, l'Autriche participent, s'ils peuvent aller désormais directement auprès de ces mécanismes, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est que la supervision bancaire, le contrôle bancaire qui a été insuffisamment exercé par les nations jusqu'à présent, devra être rassemblé dans une main unique, celle de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, il y a donc deux mesures techniques, l'aide aux banques, l'aide aux États, et une mesure qui, à mon avis, est très importante sur le plan de l'avenir de l'Europe, c'est la fédéralisation, en tout cas en fermant, ce n'est pas décidé dans le détail, mais l'idée de la fédéralisation d'un système de supervision bancaire. On peut imaginer qu'on ira plus loin dans la fédéralisation de certains mécanismes de financement plus profondément. Mais pour le moment, c'est un ensemble de mesures qui constituent un début, mais qui sont importantes parce qu'elles donnent une trajectoire nouvelle et beaucoup plus dynamique à l'Europe.
C'est donc une étape importante. Monsieur de la Rosière, merci de cet éclairage. J'invite nos auditeurs à écouter votre chronique « Finances ». Et aussi à lire pour notamment mieux connaître l'histoire et les origines de l'euro, l'ouvrage de Michel Dévoluy, « L'euro est-il un échec ?» À bientôt, Monsieur de la Rosière.
Merci beaucoup.